Chapitre 32. Dernière chance. Samedi 15 décembre, la veille du meurtre. C'était l'aube du grand jour. 6 heures du matin au palace de Verbier. Christina sortit de sa chambre et se faufila dans le couloir, ses pas étouffés par l'épaisse moquette. Le 6e étage avait la particularité de n'accueillir que des suites, et celle-ci était toujours attribuée aux personnalités de la banque. Mais Christina s'était arrangée avec Jean-Bénédicte Hansen pour se retrouver sur ce que les autres employés de la banque appelaient « l'étage des élus ». Ou plutôt, ne lui avait-elle pas laissé le choix. Pour rejoindre l'ascenseur, elle dut longer tout le couloir, défilant devant les portes des suites. Toutes se trouvaient du même côté du couloir. Le mur leur faisant face était celui de la façade de l'hôtel, alternant de larges fenêtres et d'épaisses tentures en velours. Il y avait d'abord celle des différents directeurs de département, puis, dans cet ordre, celle d'Horace Hansen, Jean-Bénédicte Hansen, Signor Tarnogol, Lev Levovitch et Macaire et Besner. Christina descendit jusqu'au rez-de-chaussée. Tout était silencieux et désert. L'hôtel semblait dormir encore. La plupart des employés de la banque profitaient du confort de la chambre et d'avoir laissé leur famille à la maison pour faire la grasse matinée et se reposer un peu. Mais la quiétude qui semblait régner dans l'établissement n'était que de façade. Dans les cuisines et les coulisses, le personnel du palace était déjà sur le pied de guerre. Il restait quelques heures pour que tout soit prêt. Dès 18h, les employés de la banque étaient attendus dans la salle de bal pour des cocktails. Puis, à 19h, tout le monde serait invité à s'avancer vers la grande estrade. Le conseil de la banque ferait alors son apparition sur la scène et ouvrirait officiellement la soirée avec l'annonce du nom du nouveau président. Les convives seraient ensuite invités à passer à table. Le dîner serait servi dans la foulée et le bal débuterait à 22h. À 7h matinale, dans le bar du palace encore fermé aux clients, M. Bisnard, le directeur des banquets, faisait les 100 pas. Il était particulièrement nerveux. Soudain, des coups sur la porte vitrée du bar le firent sursauter. C'était Christina. Il s'empressa d'aller lui ouvrir. « Je n'aime pas du tout cette situation !» lui dit-il alors qu'elle entrait dans le bar. Elle referma la porte derrière elle et répondit « Si ça peut vous rassurer, moi non plus. Je pourrais avoir des ennuis !» protesta Bisnard. « Moi aussi !» lui assura Christina. Elle prenait un très gros risque. Et si Bisnard parlait? Elle savait qu'elle franchissait une ligne rouge, mais tant pis. Elle avait besoin de savoir. Depuis lundi, depuis qu'elle avait intercepté cette conversation entre Tarnogol et Jean-Bénédicte Hansen, elle sentait bien que quelque chose clochait à propos de l'élection. Elle soupçonnait Macaire de vouloir s'arroger la présidence à tout prix. Elle avait bien l'intention de découvrir la vérité. Voici la liste de tous les employés de la banque présents ce week-end ainsi que leur numéro de chambre. « Qui s'est chargé de la répartition des chambres ?» interrogea Christina. « Jean-Bénédicte Hansen nous a donné des consignes générales. Est-ce que Macaire et Besner sont démêlés ? Vous a-t-il contacté en dernière minute cette semaine pour vous demander des changements dans l'organisation ?»« Non, pas du tout. Pourquoi ?» Christina, sans répondre à cette dernière question, poursuivit. « Donc pour vous, tout est normal ?»« Parfaitement normal. J'ai d'ailleurs parlé au responsable de la sécurité de l'hôtel hier soir. Tout semble se dérouler dans la plus grande sérénité. » « Je crois que vous faites du zèle. »« Peut-être, » admit Christina. « Vous devriez simplement profiter de votre week-end, » conseilla Bisnard en tournant les talons, pressé de s'en aller. Après avoir quitté le bar, Christina se rendit au restaurant du palace où le petit déjeuner était déjà servi. Sans surprise, les lieux étaient déserts. Elle s'installa à une table, se fit servir un café et ouvrit un journal pour patienter. À 7h, Macaire arriva dans le restaurant. Christina nota qu'il avait mauvaise mine et semblait stressé. En voyant sa secrétaire, il s'efforça de faire bonne figure. « Bonjour, bonjour Christina !» la salua-t-il d'un ton faussement enjoué. « Bonjour, monsieur Besner. Est-ce que ça va? Vous n'avez pas l'air bien. »« Je ne vous cache pas que j'ai quelques soucis en ce moment, » dit Macaire. « Des emmerdes, comme on dit vulgairement. »«
À cause de la présidence ?» demanda Christina.
« Non, enfin, oui. » Je ne vais pas vous mentir, je suis très nerveux, j'ai à peine dormi cette nuit.
Soyez tranquille, monsieur Besner, je n'ai raconté à personne ce que j'ai entendu l'autre jour à la banque.
C'était un malentendu, assura Macaire. Il n'est nullement question que Lev devienne président, c'est moi qui vais être élu.
Si vous le dites.
Macaire alla s'asseoir à une table, seul.
Ce comportement ne lui ressemblait guère. En principe, il se serait installé avec Christina pour papoter. Quelque chose d'inhabituel se tramait. 6 étages plus haut, dans sa chambre, Lev faisait les 100 pas, son téléphone à la main. Depuis hier soir, il n'avait plus eu aucune nouvelle d'Anastasia. Elle ne répondait ni à ses messages ni à ses appels. Même la ligne de sa suite de l'hôtel des Bergues sonnait dans le vide. Il commença à s'inquiéter. Malgré l'heure indue, il décida de contacter Alfred, quitte à le réveiller. Il fallait que quelqu'un aille aux nouvelles. C'était peut-être grave. À 7h15, Tarnogol arriva dans le restaurant. Il s'installa seul à une table à l'écart, réservée aux membres du conseil. Il se fit servir des œufs à la coque, du caviar, un petit verre de beluga et du thé noir avec un nuage de lait. Makir ne pouvait pas le lâcher des yeux. Il restait moins de 12 heures avant l'élection. La situation lui échappait. Son petit déjeuner terminé, Tarnogol repartit. Puis, vers 8h15, c'est Jean-Bénédicte qui apparut, comme s'il y cherchait quelqu'un. Aussitôt qu'il vit Makir, il fondit sur lui.
« Tu es là !» dit-il. « Il faut absolument que je te parle. Viens avec moi !»
Les deux hommes sortirent dans le hall de l'hôtel. « Qu'est-ce passe-t-il » demanda Makir à son cousin. Celui-ci, sans répondre, l'entraîna jusqu'à un salon privé. Dans la pièce, Horace Hansen les attendait, assis dans un fauteuil comme sur un trône. Il toisa Makir d'un air supérieur et lui annonça, tel César s'apprêtant à gracier un gladiateur,
« Je vais te faire élire président. J'en ai longuement parlé avec Jean-Bénédicte et nous sommes tombés d'accord. C'est à toi et toi seul que la présidence doit revenir. »
Les yeux de Makir s'illuminèrent. « Merci, Horace, » dit-il. « J'apprécie ton soutien. »
« Mon soutien a un prix, » précisa alors Horace. « Voici mes conditions. »
À Genève, à l'hôtel des Bergues, Alfred Agostinelli tournait en rond dans la suite de Lev Levovitch. Anastasia avait disparu. Il avait longuement frappé à la porte, sans réponse. Il était finalement entré avec son double. Les lieux étaient déserts. Le lit était défait. Ses quelques affaires n'étaient plus là. Dans la cheminée, les restes d'un feu éteint. Il fouilla parmi les cendres et dans le conduit de la cheminée. Il y trouva, collé contre la paroi en pierre, une large scorie qui s'était envolée du foyer avant de se consumer complètement. On pouvait déceler sur le papier une inscription manuscrite, mais sans pouvoir déchiffrer ce qui avait été écrit. Il téléphona aussitôt à son patron. Lev reçut l'appel d'Alfred alors qu'il s'apprêtait à quitter sa chambre. Il écouta, inquiet, le récit de son chauffeur.
« Si le lit est défait, c'est qu'elle a dormi là, » conclut Levovitch.
« Pas de traces de lutte ?»«
Non, monsieur. Aucun désordre. Je pense qu'elle s'est enfuie. Elle a pris ses affaires. On ne prend pas sa brosse à dents lorsqu'on est kidnappé. »
Ce raisonnement rassura Lev. « Allez interroger le personnel de l'hôtel, » suggéra-t-il. « Ils l'ont peut-être vu passer. »«
Bonne idée, monsieur. Je vous tiens au courant. »
Lev raccrocha. La disparition d'Anastasia l'inquiétait et il avait besoin de réfléchir au calme. Il décida d'aller prendre un café au bar. Il y serait tranquille. Dans le salon privatif du palace où il s'était enfermé, Makir écouta attentivement les revendications d'Horace Hansen.
« Je veux que tu nommes Jean-Bénédicte vice-président de la banque. Celle-ci sera également renommée Banque Ebesner Hansen. Je veux aussi que tu t'engages à prendre ta retraite d'ici 15 ans et céder ta place à mon fils. Tu auras eu une belle carrière, tu pourras prendre une retraite bien méritée et Jean-Bénédicte aura encore quelques belles années devant lui pour reprendre les rênes de la banque. »
Après un silence, Makir acquiesça. Cela lui convenait parfaitement. 15 ans de règne, au terme desquels il partirait au sommet. Tout le monde à la banque le regretterait. Les semaines précédant son départ, tout le monde se lamenterait. Que ferons-nous sans Makir? 15 années à être un patron hors du commun, adoré de ses employés, admiré par la profession, il partirait. Il ferait un émouvant discours de départ. Personne ne pourrait retenir ses larmes. Et voilà qu'il serait remplacé par cet incapable de Jean-Bénédicte qui serait la risée de tout le monde. Ah, comme il serait vengé de cette grenouille qui voulait se faire grosse comme un bœuf. Tout le monde ne pourrait s'empêcher de faire la comparaison entre eux, et Jean-Bénédicte, président, ne serait réduit qu'à l'évocation de la grandeur de son cousin et prédécesseur. Makir songea que son père et son grand-père auraient dû faire de même, quitter leurs fonctions à leur apogée et marquer ainsi les esprits, au lieu de s'accrocher malgré la vieillesse et la maladie.
« C'est d'accord, » accepta Makir. « Vous avez ma parole.
Jean-Bénédicte, laissant éclater sa joie, donna une accolade à son cousin.
« J'avais peur que tu refuses, » lui avoua-t-il.
« Comment pourrais-je refuser ?
Je sais ce que je te dois, Jean-Bénédicte. Tu m'as toujours été fidèle. Et puis, nous sommes de la même famille. Nous sommes comme des frères. »
Installé au comptoir du bar du palace, Lévovitch commanda un café serré. Le bar venait d'ouvrir et, comme il l'avait espéré, il n'y avait pas d'autres clients que lui. Lévovitch observa avec une pointe de nostalgie les fauteuils en velours rouge et les tables basses en ébène. Il se laissa envahir par l'émotion. Depuis 15 ans, rien n'avait changé. 15 ans plus tôt. C'était un après-midi de début août, un mois après que Lev eut ramené Anastasia de Bruxelles à Genève. L'été était torride, en plaine, et les clients étaient nombreux à être venus trouver la fraîcheur à la montagne. Le palace était plein à craquer, et notamment plusieurs clients très importants et exigeants, comme Signor Tarnogol, étaient venus prendre l'air à Verbier. La saison estivale ayant commencé en douceur, M. Rose n'avait pas anticipé cet afflux soudain de clients, et le personnel était en sous-effectif. Seul donnait des coups de main à la réception et aidait à l'accueil des nouveaux arrivants. Ce matin-là, il était derrière le comptoir avec Lev. Ces derniers temps, il avait remarqué que Lev était d'humeur irritable.
« Ça va, mon fils ?» demanda-t-il entre deux clients.
« Ça va, papa ?» répondit laconiquement Lev.
« Tu as l'air soucieux.
Trop de travail à l'hôtel, on est débordé. » Mais la raison du désarroi de Lev était ailleurs. Lorsqu'un mois plus tôt, à son retour de Genève, il avait parlé à son père de la proposition d'Abel et Besner, celui-ci avait pris la mouche.
« Genève, bah !»
avait réagi Seul en prenant une mine dégoûtée.
« Nous n'avons que des mauvais souvenirs là-bas. »«
Non, » avait protesté Lev. « J'ai des bons souvenirs. Avec maman, quand elle venait me chercher à l'école, les promenades au bord du lac. »«
Genève nous a pris ta mère. Genève et les banquiers. Et toi, tu viens me dire que tu veux travailler dans une banque à Genève ? Quelle trahison !
Je ne pensais pas subir un jour pareil traitement, surtout venant de mon fils. On ne va quand même pas rester à Verbier toute notre vie, » s'était écrié Lev.
« Et pourquoi pas ? Nos carrières d'acteurs sont ancrées ici désormais. Et ne viens pas me dire que tu n'es pas un acteur, tu as un talent extraordinaire. C'est ton problème en fait, tu as du talent pour tout. Je ne peux pas croire que tu veuilles partir.
Et tu m'annonces ça comme ça ? C'est à cause de cette fille, cette Kamouraska ?
Anastasia, » avait corrigé Lev.
« Anastasia, si tu veux, peu importe.
Tu as toujours dit que tu étais heureux ici, et voilà que tu rencontres cette fille, et paf, tu pars à Bruxelles au milieu de la nuit, et maintenant tu veux aller vivre à Genève.
Tu sais, Lev, les filles, ça va et ça vient. Elle, c'est différent, papa. Je veux me marier avec Anastasia. »
Seul ricana.
« Te marier ? Tu vois que t'as un grand talent comique, mon fils. Au fond, tu es un grand romantique, comme l'était ta mère. Pourquoi vouloir t'enchaîner à la première venue ?
Enfin, pars, puisque c'est ce que tu veux. Trahis-moi, laisse-moi tomber comme une vieille chaussette, je comprends. Tu as honte de tes origines, c'est ça ? Tu veux devenir un ébesner comme tous ces types chics qui se pavanent pendant le grand week-end ?
C'est pas ça, papa.
Alors qu'est-ce que c'est ? Puisque tu t'en vas, donne-moi au moins une bonne raison.
Écoute, papa, la banque, c'était juste une idée, comme ça. Rien n'est décidé.
Alors décide de ne pas partir, c'est aussi simple que ça.
C'est ce que Lev avait fait. Il avait appelé Abel et Besner pour décliner son offre. Mais en raccrochant le téléphone, il s'était fait la promesse de quitter prochainement Verbier, s'en aller loin de son père. Il devait donc renoncer aussi à devenir directeur du palace. Il lui serait impossible de diriger cet hôtel sous la surveillance de son père. Il devait partir d'ici pour de bon. Anastasia fut très déçue que ni le projet de Verbier ni celui de Genève ne se concrétisent. Mais Lev lui promit que ce n'était que partie remise, l'affaire de quelques mois au plus. En attendant, elle était retournée vivre chez sa mère. Grâce à Macaire, elle avait obtenu un poste de secrétaire à la banque Ebesner. Cela lui permettait de gagner sa vie. Elle mettait tout l'argent de côté pour un projet avec Lev. Même si elle n'adorait pas ce qu'elle faisait, elle travaillait avec Macaire qu'elle avait toujours plaisir à fréquenter. Tous les soirs, Anastasia et Lev se téléphonaient.
« Quand allons-nous être ensemble ?»
demandait inlassablement Anastasia. « Bientôt. »«
C'est quand bientôt ?»
s'impatientait-elle.
« J'attends un signe, »
répondait Lev. « La vie est faite de signes. » Et en attendant un signe du destin qui ne venait pas, il avait repris sa routine au palace. Derrière le comptoir de la réception, la voix de Sol arracha Lev à ses réflexions.
« Mon fils, il faut que je te confie quelque chose. »«
Vas-y, papa, » lui dit Lev d'un ton las.
Si je t'ai demandé de ne pas aller à Genève et de rester ici, c'est pour une bonne raison.
Je sais, les banquiers ont tué maman. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vrai que je te bassine avec ça, mais n'oublie pas que je suis comédien et que parfois j'en fais trop. Non, il y a quelque chose de très important dont je dois te parler. J'aurais dû te le dire il y a un moment déjà. Sol avait la voix qui tremblait et un air grave.
« Je t'écoute, » dit Lev soudain inquiet.
« Qu'est-ce passe-t-il ? »
Sol eut une hésitation. À cet instant, un employé apparut par la porte qui donnait sur les coulisses du palace.
« Lev, » annonça-t-il, « Monsieur Rose veut te voir dans son bureau. »«
Va, mon fils, » dit le père. « Ne fais pas attendre Monsieur Rose. Ce que j'ai à te dire n'est pas si important. »
Lev acquiesça et s'en alla trouver Monsieur Rose.
« Qu'est-ce passe-t-il, Lev ?»
demanda Monsieur Rose après avoir fait asseoir le jeune homme dans un fauteuil face au sien.
« Depuis un mois, depuis ton retour de Bruxelles, tu n'es plus à ton affaire. »«
Je suis désolé, Monsieur Rose. »«
Je me fiche que tu sois désolé. Je veux savoir ce qui te tracasse. »«
Rien. »«
Rien ?»«
Rien. »
Monsieur Rose s'agaça du silence de Lev.
« Écoute, » lui dit-il.
Je ne sais si c'est en lien avec cette fille qui te fait tourner la tête, mais moi j'ai besoin d'être sûr que tous mes employés sont à leur affaire. Il y a des clients très importants en ce moment au palace et je veux être certain que je peux compter sur toi à tous les postes.
Bien sûr, Monsieur Rose, comptez sur moi. Je ne vous décevrai pas.
Alors va au bar. Les clients vont commencer à affluer. Je veux un service exemplaire.
Lev obéit et se rendit au bar. À peine eut-il pénétré qu'il tomba sur Tarnogol, assis dans un fauteuil, qu'il alpaga.
« Jeanne Levovitch, tu tombes bien. Je voudrais monter noir avec un nuage de lait et tu es le seul à le réussir. »
Lev acquiesça et prépara le thé comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois-ci, Tarnogol ne le trouva pas à son goût.
« Pas bon, » dit-il. « Trop amer. Refais-moi ça. »
Lev s'exécuta, mais le thé suivant fut jugé trop chaud.
« Je veux le boire tout de suite !» gémit Tarnogol. « Pas attendre des heures que ça refroidisse. Refais-moi ça !»
Lev prépara une nouvelle tasse de thé en ajoutant de l'eau pour le refroidir. Mais cette fois, c'était trop froid.
« Un thé chaud, ça doit être chaud, ni tiède ni froid. Sinon, je t'aurais demandé un thé tiède ou un thé froid. Que t'arrive-t-il, enfin ?»
Il n'en fallut pas plus pour que Lev, à fleur de peau ce jour-là, perdit patience.
« Écoutez, monsieur Tarnogol, si vous n'êtes pas content, faites votre thé vous-même au lieu de me faire perdre mon temps !»
Tarnogol ouvrit de grands yeux. Il eut un bref silence, le temps pour lui de se rendre compte de l'effronterie de Lev. Puis il se mit à hurler.
« Qu'est-ce que tu as dit, sale petit impertinent ? Tu oses me parler sous ce ton ?»
Tous les clients du bar se figèrent. Lev regretta immédiatement cet instant d'égarement, mais il était trop tard.
« Qu'on m'appelle le directeur !»
s'époumonait Tarnogol en rage.
« Qu'on m'appelle le directeur sur le champ !»
Quelques minutes plus tard, Lev était convoqué dans le bureau de Monsieur Rose.
« Je n'en reviens pas !» s'écria ce dernier. « Comment as-tu pu me faire une chose pareille ?»«
Laissez-moi vous expliquer !» essaya de se défendre Lev.
« Je ne veux pas entendre tes explications !»
dit Monsieur Rose, dont on sentait combien il était affecté par cette situation.
Tu as toujours une bonne explication. Enfin, Lev, je t'avais prévenu, je t'avais demandé de te tenir à carreau.
Je regrette.
Il est trop tard pour des regrets, Lev.
Je ne vois malheureusement pas d'autre issue à cette histoire. Je dois te licencier.
Quoi ?
Mais pourquoi ? Vous savez que Tarnogol est intenable.
Pourquoi ? Mais parce que tu ne dois jamais perdre ton sang-froid face à un client. C'est l'une des règles de base que je t'ai enseignées. « Je t'ai sauvé contre vents et marées après l'affaire du bal, mais personne ici ne comprendrait que je te garde après un deuxième incident. Je n'ai pas le choix, Lev.
Il est temps que tu t'en ailles d'ici. Je crois même que te renvoyer est le meilleur service que je puisse te rendre. »
Sous le choc, sentant des larmes de colère lui monter aux yeux, Lev s'en alla sans demander son reste. Il traversa le grand hall en courant pour rejoindre l'entrée principale de l'hôtel. Il arracha son badge à sa boutonnière et le jeta par terre. Il voulait partir maintenant et pour toujours. Alors qu'il franchissait les marches du palace, un taxi arriva. La portière arrière s'ouvrit, et Lev entendit crier son nom. Il se figea. C'était Anastasia. Lev, n'en croyant pas ses yeux, se précipita vers elle. Elle se jeta dans ses bras.
« Mais qu'est-ce que tu fais là ? » lui demanda Lev.
La vie trop courte pour la gâcher à attendre, dit Anastasia. Viens à Genève avec moi, Lev. Soyons enfin heureux ensemble. Il la serra contre lui aussi fort qu'il le put et l'embrassa longuement. Il sentait son cœur s'animer d'un sentiment de bonheur fou. « C'est d'accord, » lui dit-il. Le jour même, Lev quittait Verbier avec ses quelques affaires pour aller s'installer à Genève. Par la fenêtre de son bureau, M. Rose, regardant Lev s'éloigner du perron de l'hôtel, son bagage à la main, murmura « Au revoir, mon fils. » Une larme roula sur sa joue. 20 ans plus tôt. Verbier était en effervescence. Tous les officiels et les personnalités de la région s'étaient pressés pour assister à l'inauguration du majestueux édifice qui venait d'être construit dans la station. L'établissement n'était pas encore ouvert, mais tout le monde disait qu'il s'agissait de l'un des fleurons de l'hôtellerie suisse. Les journalistes et les invités n'avaient d'yeux que pour le promoteur du projet, Edmond Rose, un homme d'affaires d'à peine 40 ans, qui, parti de rien, avait bâti une immense fortune immobilière. Un journaliste de la radio, brandissant son micro, lui demanda « Monsieur Rose, lorsque l'on a réalisé un projet aussi ambitieux que cet hôtel, peut-on considérer que l'on a réussi sa vie ?» Cette question résonna longuement dans l'esprit d'Edmond Rose. Tout ce qu'il avait entrepris avait été couronné de succès. Au cours de ses études, il s'était surpassé. Puis il avait accompli son service militaire obligatoire. Il avait terminé colonel de réserve au sein de l'armée suisse. Il s'était lancé dans les affaires, il était aujourd'hui à la tête d'un petit empire. Mais il était seul. À trop avoir parcouru le monde pendant des années pour gagner de l'argent, il n'avait jamais eu une relation sérieuse. À présent, il n'aspirait plus qu'à fonder une famille. C'était la raison pour laquelle il avait construit le palace. Il voulait s'établir à Verbier, renoncer aux affaires et prendre la direction de cet hôtel. Rencontrer une femme, fonder une famille, mener une vie normale. 20 ans plus tard, M. Rose, à la fenêtre de son bureau, regarda la silhouette de Lev s'éloigner jusqu'à disparaître. Il lui manquerait terriblement. La présence de Lev au sein de son hôtel avait été un bonheur quotidien depuis le jour de son arrivée. Mais il était temps pour Lev de prendre son envol. Car ce palace, aussi immense soit-il, était devenu trop petit pour un être de cette envergure. Pour se consoler, M. Rose se dit que, pour la première fois, il avait réussi sa vie. Il n'avait jamais rencontré l'amour. Il n'avait jamais eu d'enfant. Mais il avait eu Lev. Il avait aimé et était aimé. Un jour, Lev aurait des enfants. Il serait pour eux comme un grand-père. Monsieur Rose, fixant son reflet dans la vitre, se sourit à lui-même. Il laisserait une petite trace sur cette terre.